Et on a l'habitude à la vie comblée de faire une petite déclaration. Et c'est vraiment pour nous quelque chose d'important parce que semaine après semaine, ça change notre vie. On décide, on déclare que la parole de Dieu contient la vérité. Et que ce que la parole de Dieu dit qu'on peut faire, on peut le faire. C'est possible de le faire avec notre foi. Que ce que la parole de Dieu dit que nous le sommes réellement. Et ce qu'on peut faire avec Dieu, c'est réaliser son plan. Est-ce que vous voulez réaliser son plan? Vous pensez que son plan est le meilleur? Alors nous sommes ici pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous inspires Seigneur ce matin. Alors ce matin, on va parler de garder notre confiance pour Dieu. Garder notre confiance en Dieu. Et c'est sûr qu'on a un verset clé. Donc le verset clé, là, vous l'avez sur l'écran. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Romains 15, 13. J'ai essayé d'imaginer un monde sans confiance. Un monde où la confiance serait perdu. Imaginez 5 minutes, pas plus, ça vous donnera des maux de tête, une économie mondiale et même planétaire où la confiance n'existerait plus. Un marché boursier qui ne se baserait plus sur la confiance réciproque. Où les gens ne feraient plus confiance où ils auraient perdu cette confiance. Vous savez ce que ce serait? Ce serait l'effondrement de l'économie mondiale. Ce serait une catastrophe planétaire. Un monde qui ne ferait pas confiance à ses dirigeants, et ce serait le chaos. Sur le plan purement relationnel, également, que penserez-vous d'un mariage qui ne serait pas basé sur une confiance réciproque? Est-ce que vous pensez que ce mariage aurait des chances de tenir longtemps? Moi, je crois que c'est un échec assuré. La confiance, c'est comme une constante universelle. Alléluia. Et cette confiance, elle repose sur ce pilier solide pour nous chrétiens qui est la foi. Voyez à quel point la confiance est importante, elle est nécessaire. Elle est nécessaire déjà pour le monde, pour vivre, pour que le monde fonctionne. Elle est encore plus nécessaire pour nous, qui croyons en Dieu, parce qu'on va reposer notre vie sur la confiance que l'on a, sur les promesses du Seigneur. Le monde ne connaît qu'un aspect élémentaire de la confiance. Mais nous, nous devons développer cette confiance que l'on a en Dieu. Parce que Dieu désire que nous ayons confiance en lui. Cette confiance, c'est cette force qui va nous soutenir alors que tout va s'écrouler autour de nous. Et la confiance, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Pour qu'il puisse nous chérir. Pour qu'il puisse nous donner l'affection qu'il veut nous donner. Et pour nous donner ce qu'on a vraiment besoin pour continuer à avancer jour après jour dans ses voies. Alors la première chose qu'on va faire, que j'ai faite en tout cas, quand je me suis posé la question, j'étais en train de prier et je faisais mes dévotions, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut donner une définition? Qu'est-ce qu'on donne? Quelles sont les définitions de la confiance? Est-ce qu'il y a une définition de la confiance? Est-ce qu'il y a une définition biblique de la confiance? Alors, j'ai regardé l'origine. Et c'est intéressant de voir que la confiance dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, c'est le terme bêta, avec un H à la fin, signifie la sécurité, se sentir en sécurité. Et c'est vrai, inconsciemment, lorsqu'on parle de confiance, quand je donne ma confiance, quand je suis en confiance, je me sens en sécurité. Et c'est cet aspect-là qui est important. Ce mot veut dire « je me sens en sécurité ». Je ne crains rien. Le mot grec, vous avez sur vos petits papiers, je ne le prononcerai pas, signifie une ferme assurance. Et c'est important parce que tout à l'heure, Fanny a parlé de quelque chose d'important qui est vraiment ça. C'est vraiment ça le cœur du message de ce matin. Il faut qu'on ait cette liberté devant le Seigneur. Et cette confiance, c'est ce qui va nous donner cette liberté. Oui, le Seigneur veut qu'on soit libre devant lui. Qu'on soit totalement libre de quoi ? De le louer, de l'adorer, mais aussi de se confier en lui. Le Seigneur veut qu'on se confie en lui. En qui pouvez-vous vous confier ? À part le Seigneur. Je veux dire confier, c'est totalement. C'est sans réserve. Moi, je me confie au Seigneur. Et je lui dis tout. Oh, je sais qu'il le sait. Mais j'ai besoin de lui dire. J'ai besoin d'avoir cette intimité où je lui dis les choses qui sont au fond de mon cœur. Et c'est ça, la confiance. C'est cette ferme assurance où on a cette liberté de s'exprimer. À qui ? À celui à qui on se fie. À celui qu'on a décidé de prendre comme notre confident. Dans la Bible, on trouve que l'homme doit d'abord se confier à Dieu en premier, car lui seul est fidèle. On ne peut pas se confier totalement à quelqu'un d'autre. Regardez dans Deutéronome 7-9, c'est un petit peu plus bas. Voilà. Deutéronome 7-9 et Deutéronome 32-4. Dieu est fidèle. Il est comme un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet point, qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Et il est bon de se confier en Dieu. On ne va pas se confier sur des choses périssables, des choses matérielles, des choses que le monde nous montre comme étant devant nos yeux, qui vont nous cacher le reste. On n'est plus capable de voir ce qu'il y a derrière. On a besoin de se confier sur une ancre, sur quelque chose qui est immuable, qui ne va pas bouger, qui ne change pas. Vous savez que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Alléluia. Et il est bon de se confier en Dieu. Parce qu'il est fidèle et il ne change pas. Toutes les choses de ce monde sont vouées à la destruction. Vous êtes d'accord ? N'importe quoi ! Tout ce que vous voyez dans ce monde est voué à la destruction. Que ce soit une automobile ? Ben oui, mais dans 20 ans, ça sera quoi votre automobile ? Votre maison ? Dans 100 ans, ça sera quoi ? Mais dans 100 ans, Dieu sera là. Et on sera peut-être avec lui d'ailleurs. Certainement. Alléluia. J'ai d'autres versets à vous montrer, comme Psaume 84, verset 13, 12 ou 13, juste en dessous. Voilà. C'est l'Éternel, Seigneur des armées célestes. Bienheureux est l'homme qui a confiance en lui. Ah oui, c'est sûr, mais il y a une promesse. Il y a un commandement. Vous devez vous confier en moi. Je veux que vous confiez en moi. Oui, mais à côté, il y a une promesse. Et cette promesse, c'est heureux, bienheureux est l'homme qui se confie en toi. Alléluia. La Bible nous dit, en particulier dans Matthieu 10, 30, 23, qu'il faut faire attention aux choses du monde. Attention aux richesses de ce monde qui sont passagères. Mais ce que nous savons, ce qui est fondamentalement ancré dans notre vie chrétienne, et ce qu'on a besoin de savoir finalement, c'est que Dieu est le seul fidèle. Qu'on peut se confier en lui. Qu'on peut établir ce rapport de confiance avec lui. Et troisièmement, c'est ce que Dieu veut que nous ayons confiance en lui. On va passer à Nombre 14 au verset 11. Tu dis ça un petit peu ? Nombre 14 au verset 11. Voilà, 14 au verset 11. Regardez ce que dit l'Éternel à Moïse. Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore ? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance ? L'Éternel veut qu'on ait confiance en lui. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il va pouvoir déverser ses bénédictions. Il attend qu'on ait confiance en lui. C'est sa volonté que l'on ait confiance en lui, qu'on lui fasse confiance. Alléluia. Car il est digne de confiance. Quelles sont les conséquences qu'on va avoir quand on va exprimer notre confiance en Dieu ? Première chose, c'est le succès. On va avoir le succès. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Regardez la vie d'Ézéchias. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias ? La Bible dit, dans 2 Rois 18, verset 5, « Aucun ne l'égala. » Aucun ne l'égala. Pourquoi ? Parce qu'Ézéchias a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu l'a fait grandir. On va être exaucé de ce qu'on demande. On trouve ça dans 1 Chronique 5 au verset 20. Donc on va avoir le succès, on va être exaucé, on va être aussi bienheureux. C'est la Bible qui le dit. Psaume 40 au verset 4. Dans certaines Bibles, vous avez aussi le verset 5 à la place du 4, selon les traductions. Regardez, Psaume 84 au verset 12, Proverbe 16 au verset 20. Pourquoi il y a autant de versets ? Parce que c'est important de savoir que lorsqu'on obéit au Seigneur, qu'on a notre confiance qui est posée sur le Seigneur, qu'on établit notre confiance avec le Seigneur, alors lui, il nous bénit. Et j'en ai cité quelques-uns de versets, mais il y en a des dizaines qui parlent de la même chose. Faites-moi confiance et je vais vous bénir. Mais pourquoi c'est si difficile alors ? Pourquoi ? Le peuple hébreu avait autant de mal à établir la confiance avec le Seigneur, alors qu'il savait qu'il y avait autant de bienfaits. C'est que parfois on est soumis à certaines stress, certaines circonstances, qui fait que notre confiance, elle est très limitée. Et au-delà de ses limites, la confiance en Dieu, bien, elle s'amenuise. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Vous pouvez avoir confiance en moi, et je veux que vous ayez confiance en moi. Mais pas confiance pour 5% de vos affaires. Confiance pour toutes vos affaires. Et pas confiance jusqu'à une certaine limite. Ou si on dépasse cette limite, ben, finalement, écoute Seigneur, t'as pas encore agi, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais agir avec ma tête, et puis je vais trouver une solution. Oh, pas trop légale cette solution, pas trop correcte. Mais c'est une solution, je vais le faire. Non, non. Non, non. C'est pas ça la confiance. La confiance, c'est je décide de faire confiance, et on va le voir tout à l'heure, parce qu'on va parler d'exemples de confiance, et pas des petits exemples. On va parler de la fournaise. La confiance, c'est une décision qu'on prend bien en avant. Et le moment venu, on s'y maintient. Alléluia. Le Seigneur est un refuge. Psaume 91 au verset 2. Psaume 119 au verset 114. Si ça ne défile pas assez vite, vous avez votre Bible. Merci Seigneur. C'est aussi une protection. Le Seigneur est une protection. Jérémie 39 au verset 18. Oui, il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets dans ma Bible, vous savez. Je ne les connais pas tous. Mais ce qui est important, c'est que vous les notiez, ces versets. Et de pouvoir y retourner après. En toute liberté, en toute confiance avec le Seigneur. Et dire, Seigneur, ce verset-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Alléluia. Le Seigneur vous parle. On va revenir là-dessus. Nous, nous savons que le Seigneur nous parle. Comment il nous parle? Par sa parole. Par sa parole. Alléluia. Et c'est certainement pas avec mon intelligence que je vais résoudre les problèmes. Sachez-le. Ce n'est pas votre confiance avec votre intelligence ou vos biens matériels que vous allez résoudre les problèmes de ce monde. Ni même les problèmes de votre vie. Parce que vous êtes engagé. En tant que chrétien, vous avez besoin d'armes qui ne sont pas matérielles. Ces armes-là, vous les avez avec la confiance en le Seigneur. Portez votre confiance devant le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il veut. Et il y a une force dans la confiance. Vous savez qu'il y a une force énorme dans la confiance. La confiance amène le calme. Vous êtes dans le trouble, vous êtes des choses qui vous arrivent, pas possible. Oui, mais non, non. Je suis dans la fournaise, là, comme Daniel, là. Non, non, il y a le feu. Oui, il y a le feu, ok. Mais non, je suis confiant. Je suis calme. Pourquoi? Parce que c'est papa. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a fait la fournaise. Pourquoi j'aurais confiance en ce que disent les autres? Je garde confiance. Parce que de toute façon, Dieu est plus fort. Alléluia. Alléluia. Ça fait penser, hein. Ça fait réfléchir des fois. On a des situations où on essaye de s'en sortir avec nos moyens. Puis le Seigneur nous laisse faire. Et bien sûr qu'il va nous laisser faire. Oui, mais regarde, si tu m'avais fait confiance, moi j'avais une autre solution. Cette solution-là, je vais la mettre dans le placard parce que tu ne l'as pas utilisée. Mais si tu m'avais fait confiance, tu l'aurais eu. Dieu ne laisse pas son peuple dans la honte. Alors il faut apprendre à avoir confiance en Dieu. Et ça s'apprend. C'est une vie d'apprentissage. Alléluia. Dieu éprouve de la bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Vous savez ça? Que Dieu éprouve de la bonté? Déjà, il éprouve de la bonté naturellement. Mais si la Bible dit que Dieu en plus éprouve de la bonté, ça veut dire que c'est encore plus de bonté pour ceux qui lui font confiance. On trouve ça dans Ésaïe, verset 15, chapitre 30. Alléluia! Dieu éprouve de la bonté pour ceux qui ont confiance en lui. On trouve ça dans Lamentations, chapitre 3, verset 25. Ésaïe 30, verset 15, c'est le calme. Cette force qui vous pousse au calme devant la tempête, pour ne pas dire la fournaise. Alléluia. Et enfin, Dieu va vous donner la direction quand vous êtes dans sa confiance. Dieu va vous donner la direction de votre vie. On trouve ça dans Psaume 143, verset 8. Et vous savez quoi? La parole de Dieu, c'est toujours une ligne droite. Jamais Dieu va passer par là-bas, revenir ici pour vous ramener là. Pas comme ça qu'il fonctionne. Parole de Dieu, c'est direct. Et la ligne, c'est sa ligne droite. Alléluia. Alléluia. Son œuvre s'accomplit avec fidélité. Psaume 33, verset 4. Alors est-ce qu'on va démontrer cette confiance en Dieu? Est-ce que vous me suivez ce matin? Ok. Si je n'entends pas de Amen, je vais vous faire lever et on va louer le Seigneur. Ok, c'est bon. Vous ne voulez pas vous lever? Très bien. J'ai noté. Ça va. Merci Seigneur pour la joie, Seigneur. La joie de ton peuple, la joie de tes églises, Seigneur. Merci de nous remplir de joie, Seigneur, et de bonheur. Je te rends grâce, mon Père. Oui, donc, comment se démontre la confiance en Dieu? C'est sûr que, quand on écoute les psaumes de David, on comprend que David a un secret. Il a une extraordinaire confiance en Dieu. La première fois que j'ai lu les psaumes de David, je me dis, comment il fait pour avoir autant de confiance? C'est sûr que c'est la première fois, hein. Je me dis, c'est fou cette confiance qu'il a en Dieu. Il a une confiance qui est surnaturelle, qui est extraordinaire. Comment David peut avoir autant confiance en Dieu dans des moments épouvantables? Mais on a le texte qui nous le donne. David l'a écrit de sa main, inspiré par le Saint-Esprit, certes. Mais quand on lit ce qu'il a écrit, on se dit, mais ok, il y a quelque chose de plus que David avait que je n'ai pas. Je veux avoir cette confiance. Je veux avoir cette confiance de David. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends les psaumes et je lis. Je lis jusqu'à ce que il m'inspire, il me donne. Il me dit, ah ouais, ok, c'est ça. Alléluia, c'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et vous savez, ma confiance en Dieu a monté en flèche. Et c'est bon. C'est bon même de le témoigner. Et en peu de temps. En très peu de temps. Dieu est bon. Regardez les psaumes. Par exemple, 27, de 1 à 3. Je ne sais pas si on peut le mettre. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que les méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et qui tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger. Une armée! Pas un homme! Mon cœur reste en crainte! Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance! C'est surnaturel! C'est normal, ça? Selon le monde? Vous pensez que c'est normal? Moi, quand j'ai lu ça, là, j'étais pas chrétien. Enfin, j'étais pas chrétien né de nouveau. J'étais chrétien quand même. Pas né de nouveau. Ça se discute, hein? Oui, ça se discute. Et ça remonte à pas mal de temps, hein? Et je me disais, waouh! C'est quoi ça? Je veux ça, moi! Alléluia! Ça m'a aidé? Je veux ça! Regardez dans Proverbe 3, versets 23 au 26. Ça aussi, c'est fabuleux, ça m'a touché. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte. Se coucher et avoir le sommeil calme, en paix. Vous savez ce que c'est pour quelqu'un qui a du mal à dormir? Quelqu'un qui se pose des tas de questions sur l'univers. J'étais comme ça, moi. Et puis, les choses s'y tournaient là-dedans. J'étais pas calme le soir. Mon sommeil est paisible. Voilà ce que dit la parole. Mais c'est ça que je veux, moi. Je veux ça, moi. Et vous le voulez, ça? Vous le voulez? Vraiment? Ayez confiance en Dieu. L'Éternel est mon assurance. Il gardera mon pied de tout piège. Il gardera mon pied de tout piège. Je suis sûr que si je lui demandais, là, il mettrait quelque chose pour me porter en l'air. Je lui demande pas, hein. Mais s'il y avait un précipice là, je vous garantis que je suis sûr que Dieu y mettrait quelque chose. Si là le plancher devait s'écrouler là, et qu'il devait y avoir un trou de 10 mètres de profondeur, je suis sûr que l'Éternel y mettrait quelque chose là. Je suis sûr que je ne tomberai pas. J'ai cette totale assurance que le Seigneur me protège. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la parole de Dieu. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Alléluia. Ce secret de David, c'est bon de le comprendre et de l'assimiler. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Bien sûr, il faut bien comprendre que pour ne pas craindre, il ne faut pas être impie. Il faut être en règle avec le Seigneur. Vous savez, c'est important. Pourquoi le Seigneur organise tout? Pourquoi le Seigneur a suscité Pasteur Ken à faire toute une série de prêches sur comment se purifier, le texte exact, c'est comment mettre notre vie en ordre. Vous savez, ça a un sens. Pourquoi là, c'est interrompu et il y a ce prêche sur la confiance? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose là? Vous savez, ce n'est pas prévu, hein? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de divin là. Dieu s'occupe de son peuple. Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Et Dieu nous enseigne. Alléluia. Le dessein de Dieu est magnifique pour chacun de nous. Et nous n'avons pas à craindre qui que ce soit. Et je ne crains rien. Tout ce qui va arriver, je ne le crains pas. Parce que ça ne va pas m'arriver à moi. Parce que j'ai confiance au Seigneur. Alléluia. Dans le psaume 94, du verset 12 à 13, il est dit qu'il y a une fosse qui est creusée pour le méchant. Pas pour nous. Elle n'est pas pour nous. Ce n'est pas votre affaire si le méchant tombe à côté de vous. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Lui, il sait ce qui se passe. Mais votre affaire à vous, c'est de mettre votre confiance au bon endroit et de le laisser dans cet endroit-là. De ne pas le faire décaler à un moment donné vers quelque chose de plus trivial. Dans le Proverbe 14, verset 26, on parle de la crainte de l'Éternel. Mais quand on comprend le texte, et d'ailleurs la Bible en français courant donne la bonne signification, je pense, en tout cas selon moi, craindre l'Éternel, c'est reconnaître son autorité. Vous savez, on ne peut pas mettre sa confiance en l'Éternel si on ne reconnaît pas son autorité. Parce qu'à partir du moment où on la reconnaît, on peut se confier à lui, on peut mettre notre assurance sur ce qu'il est. On peut tout lui dire. Il faut reconnaître son autorité. Il a autorité sur votre vie parce que vous lui avez donné cette autorité. Sinon, il aurait dit, ok, tu veux pas, je vous aime. Je vous aime tant que je vous ai laissé le libre arbitre. Mais si tu me donnes ton autorité, si tu me donnes l'autorité, alors je prends l'autorité. Et tu reconnais que je suis l'autorité. Alors là, je te bénirai. Alléluia. Vous savez, on peut tout dire à Dieu. Parce que cela a toujours été sa volonté. Et quand on dit tout à Dieu, on se confie à Dieu, on enlève beaucoup de choses qui pourraient être des racines. Vous savez ce que c'est les racines ? Des choses qu'on ne voit pas, mais qui travaillent au fond de nous. Alléluia. Et qui vont changer des choses dans notre vie qui ne sont peut-être pas bonnes. Mais c'est important de voir que le Seigneur, lui, il va les enlever, ses racines. Dès lors que je lui dis, Seigneur, c'est quoi ça que j'ai au fond de moi qui n'est pas net? Mets un peu de lumière. Regarde, Seigneur. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas net. Je sens que je n'ai pas pardonné quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais Toi, tu sais, montre-moi. Comme ça qu'il faut parler à Dieu. Alléluia. On peut lui faire confiance. Qu'est-ce que cela va entraîner de mettre notre confiance en Dieu? L'une des choses essentielles que ça va entraîner, et là aussi, c'est des choses dont on parle le mercredi. Tu sais que le mercredi, là, depuis quelques semaines, on parle de la prière. C'est important, la prière. Celui qui se rend compte à quel point la prière est importante change non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux qui sont autour de lui. La puissance dans la prière. Alléluia. Vous savez que depuis quatre mercredis, on parle de ça. Eh bien, vous savez ce qui va se passer quand vous mettez votre confiance en Dieu? Vous allez avoir de l'assurance dans la prière. De l'assurance dans la prière. Et quand vous allez prier, ça ne va pas être « Oh Seigneur, je m'excuse de te demander ça !» Non, non, ça va être de l'assurance. Seigneur, j'ai compris ta parole. J'ai compris ton cœur, Seigneur. Oh, je ne me lamente pas, là. Je sais ce que tu veux pour moi. Je sais que tu veux que je te le demande. Et Seigneur, c'est avec une totale confiance que je te le demande. Alléluia. Parce que je sais que tu vas pourvoir. Voilà ce que la confiance en Dieu va vous amener. Cette assurance totale dans la prière. Vous pouvez le remplacer aussi par cette efficacité dans la prière. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? On veut tous. Mais plus que ça, c'est pas qu'on veut tous, c'est qu'on en a besoin tous. C'est que on ne peut pas s'en passer. C'est nécessaire pour notre vie de chrétien d'avoir cette confiance dans notre prière, cette assurance dans la prière. Hébreux 4, verset 16. Je ne sais pas si on peut y aller. Oui. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Assurance, confiance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous ne soyons plus, pour que nous soyons secourus au bon moment. Alléluia! Vous y croyez? Ouais, moi j'y crois. Alléluia! On a cette assurance devant Dieu. C'est important de savoir que si ton cœur ne te condamne pas, sondez votre cœur avant de prier. Et ça, c'est important. Sondez votre cœur. Si votre cœur ne vous condamne pas, alors nous avons cette assurance devant Dieu que nous pouvons tout lui demander et que nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21 à 22. Monte un petit peu plus. Mes chers amis, si votre cœur ne nous si notre cœur ne nous condamne pas, très important, comprenez ce qui est marqué là. C'est quoi notre cœur? Notre cœur va nous dire s'il y a des choses qu'on ne sait peut-être pas dans notre intelligence. Si mon cœur ne me condamne pas, mon esprit ne me condamne pas, mon esprit ne me donne pas l'information, alors nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Alléluia. La parole de Dieu, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des extraits de la parole de Dieu que j'ai paraphrasés. Vous savez, je ne m'amuserai pas à réécrire la parole de Dieu. Hein. C'est pas la peine, il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Ok? Ça a été écrit, ça s'appelle la Bible. Il y a tout dedans. Tout ce qu'on pourra dire pendant des siècles, c'est dedans. Alléluia. Alléluia. Quand on demande à Dieu, c'est avec assurance qu'il faut le faire. Sans aucune hésitation. Et surtout, on ne vous excuse donc pas. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Parce que Dieu le veut. Vous savez, si vous avez, si votre cœur ne te condamne pas, il faut utiliser ces versets de la Bible et les faire vôtres pour qu'ils agissent en vous. Sinon, votre vie de prière va avoir de sérieuses difficultés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous allez prier en vain. La condition de base pour recevoir de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Cette assurance. Vous comprenez ? Avoir confiance en Dieu. La confiance du fait que Dieu est Dieu. La confiance sur le fait que Dieu est Dieu. Et que Dieu peut tout. Et qu'il veut tout te donner. Tout ce qu'il t'a promis. Il a prévu un héritage pour chacun de nous. Vous savez ce que c'est qu'une convention ? Vous savez ce que c'est aussi une constitution, encore plus fort ? Une constitution, elle est, pour la changer, il faut des choses, hein ? Dieu a établi une constitution avec vous, avec nous. Et cette constitution, elle contient des promesses. Et ces promesses, personne ne peut vous les enlever, sauf vous. Parce que vous décidez de ne pas les prendre. Vous avez droit à cette constitution que Dieu a établie parce que vous êtes devenu chrétien. Et cette constitution, elle est écrite d'une manière très précise. Il y a tout ce qu'il faut pour ne pas se tromper. Et cette constitution, elle porte un nom, c'est la Bible. Il y a tout dedans. Tout ce qui est expliqué dedans. Il y a tous les commandements. Oui, mais il y a un commandement et une promesse. Il n'y a pas de commandement sans promesse. Il y a toujours une promesse dès lors que Dieu vous demande de faire quelque chose. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a une promesse derrière. Alléluia. Alors, ne perdons pas confiance en Dieu, c'est lui notre seule chance, notre seule source. Vous savez, il y a des risques à tout ça. Il faut faire attention, il faut vraiment ne pas marcher n'importe où. Il ne faut pas qu'on devienne religieux. C'est-à-dire préférer la création au Créateur. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas non plus devenir trop sérieux avec le Seigneur. Si on est trop sérieux, on se fait une religion qui exclut l'expression de la joie. Mais ce n'est pas ça que veut le Seigneur. On a besoin de la joie. C'est notre force, la joie. Notre joie de faire la volonté de Dieu et de faire ses œuvres. C'est notre nourriture quotidienne de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Comme c'était la nourriture de Jésus quand il est venu sur la terre. Alors c'est sûr qu'il y a des pressions actuelles dans le monde. Il ne faut pas se cacher les yeux, vous savez, ça ne sert à rien de se cacher les yeux. Il faut regarder ce qui se passe. Il y a des pressions dans le monde. Des pressions par lesquelles nous devons passer. Nous avons passé, et nous allons peut-être encore devoir passer, vous et moi, qui sont, je vous l'assure, très supérieurs à ce que nous sommes capables de supporter humainement. En fait, nous ne pourrions peut-être même pas survivre en tant que chrétiens sur ces pressions-là, si on ne devait pas avoir le support surnaturel de Dieu qui est avec nous. Le chrétien, il vit surnaturellement. Vous avez compris que le chrétien est une créature spirituelle et qu'il vit surnaturellement. On ne pourrait pas tenir dans le monde. De quelle pression je veux parler ? On peut avoir des petites, des grosses. Des petites pressions, par exemple. Dans votre travail, vous avez des gens qui vont discuter. De choses qui ne vous plaisent pas. Vos oreilles, ça siffle. On parlait de choses d'impureté, de je ne sais pas quoi. Et tout le monde rigole. Mais vous, vous rigolez pas. Puis, comme vous rigolez pas, vous les dérangez. Et ça va entraîner des choses. Ça peut aller jusqu'au harcèlement. J'ai connu ça. Parce que je rigolais pas. Ah ben lui, là, attends, on va lui faire payer. C'est ça. C'est ça, cette pression qu'on vous met, parce que vous n'êtes pas comme les autres, parce que vous ne pouvez pas être comme les autres. Parce que vous n'êtes plus comme les autres. Parce que vous n'êtes plus conçu pour vivre dans ce monde. Attendez, je ne suis pas un extraterrestre, hein. Mais je suis conscient que je suis provisoirement cette terre, que ce n'est pas ma destination finale. Je ne suis pas fou en disant ça. Amen. Alors il y a des pressions auxquelles le chrétien est soumis parce qu'il est chrétien. Et la Bible en parle. Il y a des tribulations. Je ne parle pas des grandes tribulations, je parle de la tribulation du chrétien. Et oui, on ne peut pas. On ne peut pas ne pas y passer à ces tribulations-là. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est spirituellement. Et c'est surnaturellement. Avec l'aide de Dieu, avec la confiance en Dieu, oui, on va pouvoir dépasser tout ça. C'est la seule façon de supporter ces pressions. C'est en restant dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et de ne pas sortir de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Tous les autres plans qui vont être montés à droite et à gauche vont tomber. Seuls les plans de Dieu vont perdurer. Alléluia. Vous savez qu'il vaut mieux être dans le plan de Dieu. On est sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Même si vous êtes en bordure du plan, vous êtes quand même dans le plan. C'est bon. Il vaut mieux être au milieu. La 1231, par exemple. Vous la connaissez, la 1231? C'est une... C'est quoi? C'est une nationale? Non, c'est plus qu'une nationale. C'est une internationale. Une mondiale. La 1231. Quelle route. Alléluia. Alléluia. Oui, mais il ne faut pas sortir de la 1231. Pas sortir de l'amour, là. Restez bien au milieu. Et là, vous êtes dans le plan de Dieu. Parce que vous allez entendre ce que Dieu vous dit. Mais les autres plans, les autres autoroutes à côté de vous, c'est des plans différents qui passent à droite et à gauche, ils vont tomber. Toutes les attaques, toutes les moqueries qu'on peut vous faire, ça ne va pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Alléluia. Et vous allez le voir de vos yeux. Seuls les plans de Dieu vont résister. Alléluia. Nous devons conserver notre confiance intacte en Dieu. Et si vous avez un problème avec ça, relisez Hébreux 3:6. Hébreux 3:6. Le Christ, lui, est digne de confiance. Confiez-vous au Seigneur Jésus. Hébreux 3, 14 et Hébreux 10, 35. Vous savez que notre assurance, c'est notre bouclier. Ah, une anecdote intéressante que j'ai lue. Vous savez que dans les batailles, on va dire tout ce qui s'est passé avec les Hébreux, les Juifs et les différentes nations, qui était contre eux, il y avait une chose que le soldat avait dans sa tête, c'est que il peut tout laisser, mais pas son bouclier. C'était un déshonneur de lâcher son bouclier. Donc il gardait le bouclier avec sa main serrée. Et son bras était solidement sur le bouclier. Jamais un soldat ne lâchait son bouclier volontairement. Alléluia. C'était une honte pour un soldat que de lâcher son bouclier. Eh bien, notre assurance, la confiance qu'on porte au Seigneur, c'est notre bouclier. Et jamais on ne devrait le lâcher. Parce que nous sommes des bons soldats du Seigneur. Alléluia. Et il faut le tenir ferme, ce bouclier, avec un bras solide. Et si le monde te dit à côté de toi, mais la paix est menacée, nous savons que Dieu a déjà préparé la solution à tous les problèmes. À tous les problèmes de tous les chrétiens. Et nous devons plus que tout nous confier en lui. Nous ne pourrions pas nous confier en quelqu'un d'autre. nous devons nous confier en lui. En tant que personne, en tant qu'église locale, et en tant qu'église avec un grand E. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, ce que je vois aussi, c'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a tellement suscité de parler de ça, c'est que dans certaines conditions, dans certaines circonstances plus ou moins, on va dire, tragiques, parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais souvent, nous, chrétiens, on devient des vrais païens. Qu'est-ce que je dis là? On s'appelle tomate? Ok? C'est bon, vous n'avez pas encore réalisé ce que j'ai dit alors. Ok. Je dis que dans certaines conditions, dans certaines circonstances tragiques, souvent on devient de vrais païens. Comment les chrétiens qui ont le courage de garder leur cœur intact quand la tempête arrive? Vous savez ce que c'est que de voir la tempête? Devant soi, là. Et si on n'est pas préparé, on devient de vrais païens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Il semblerait que notre confiance soit limitée. Parce que dès qu'un problème arrive, on cherche avant tout à réaliser avec notre mentalité. Ouais, mais je peux y arriver. Si je demande à Dieu, ça va prendre plus longtemps. Erreur. Dieu va résoudre le problème définitivement. Vous allez peut-être être une rustine. Est-ce que c'est une rustine? Hein? C'est ça, un petit couvercle. C'est tout ce que vous allez faire. Et avec une mentalité affolée, et là, attendez, quand je parle de vous, là, je parle de moi aussi. Hein. Moi, je peux vous dire que ce que je dis là, c'est des choses que j'ai vécues. Et peut-être encore que dans certaines conditions, enfin, le Seigneur me transforme. Hein. Oh, si je parle, c'est des choses que je connais. Je dis pas des choses que j'ai vues à d'autres, là, c'est du vécu. C'est pour ça que j'en parle tellement à l'aise. Parce que je me confie au Seigneur, il me connaît et il sait que souvent je retourne au Seigneur en disant, écoute, j'aurais pu attendre. Ah, c'est bon. Mais c'est bon parce qu'après j'ai l'impression que le Seigneur il me prend dans ses bras et il me dit, on va réessayer la prochaine fois. Alléluia. Mais j'espère qu'un jour, le Seigneur me dira, ah, t'es arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fonce pour essayer de résoudre avec notre intelligence, avec notre mentalité d'affolé, d'incrédule, jusqu'à ce que nos ressources humaines, plus rien. Et une fois que on a tout épuisé, qu'on n'est plus capable de rien, ça coûte plus rien de demander au Seigneur, hein, de toute façon. Il n'y a plus que ça. Alors, on est épuisé, plus de ressources, plus rien. On est effondré. Seigneur, il n'en peut plus là. Fais quelque chose. Et là, le Seigneur, ouais, je vais te redresser. Mais pourquoi t'es par terre? Parce que je t'ai pas entendu, Seigneur. Ok, c'est ça. C'est ça. Mais le Seigneur, il nous redresse. Jamais le Seigneur m'a laissé par terre. Et plusieurs fois, j'étais par terre. Mais jamais il m'a laissé par terre. Parce qu'à la dernière limite, j'ai crié. J'ai toujours crié aussi. Tu sais, je suis très fort pour crier. J'ai appris. Alléluia. Je pourrais enseigner là-dessus, comment crier. Alléluia. C'est ça. Jusqu'à l'épuisement, je trouve encore la force de crier. Ça, c'est un manque de confiance. Oui, j'ai confiance en Dieu, mais au-delà de cette limite-là, j'ai du mal. Un manque de confiance. Parce que nos forces humaines, elles vont pas arriver à contenir l'épreuve qui arrive. Alors, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais je voulais prendre deux exemples, au moins deux. D'abord, je voulais vous parler d'Abraham, et après, je vais vous parler de la fournaise avec Daniel. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment impressionné dans la Bible. D'abord, c'est Abraham. On trouve ça dans Genèse 12, au verset 1 à 9. Vous savez, Dieu parle à Abraham. Bon, c'est normal. Nous aussi, Dieu nous parle tout le temps. Il nous parle par sa parole. Mais Abraham n'avait pas la parole. Il n'avait pas la Bible. Mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé et Abraham, il était où là? Il était à Ur. Et c'est quoi Ur? C'est une cité polythéiste où tout le monde là adore plein de dieux et c'est n'importe quoi. Il vivait dans un monde. Bon, c'est vrai que. Il pouvait encore imaginer que Noé, qui était son ancêtre, lui, bon, ok, il connaissait le Seigneur. Mais il n'avait rien vu, lui. Il vivait dans un monde de païens. Puis à un moment donné, il entend la voix de Dieu. Pof ! Dieu qui lui parle, et Dieu qui lui dit des choses qui ne lui plaisaient pas. Il dit quoi ? C'est fou ce qu'il lui dit. Il lui dit, va-t'en. Il lui dit, va-t'en. Va-t'en. Ben, Seigneur, je suis à Ur, là. Hey. Super cité, là. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les temples. Il y a tous les dieux, là. Va-t'en. Mon Dieu, va-t'en. Va-t'en de ton pays, ta maison. Non, pas la maison de mon père. Je suis bien, là. Je suis nourri. Non, va-t'en. Mais Seigneur, je vais où? Dans le pays que je te montrerai. Wow. Je m'en vais par là. Là, moi ça m'a toujours surpris. Là. Comment il a fait là? Mais quelque part il s'est passé quelque chose avec Abraham. Dans son cœur il avait quelque chose qui devait venir de Noé, c'est pas possible. Quelque chose qui, puis il entend le Seigneur et puis il obéit. Waouh. Dans le contexte où il était, le fait qu'il obéisse, c'est un homme de foi. Et quel homme de foi? Le père de la foi. Vous vous rendez compte? Combien de vous auriez obéi comme ça, dans ces conditions-là? Super marina, super truc, là. Parfait, le décor génial. Non, non. Va-t'en. Va-t'en dans le désert, là-bas. Canaan. Il n'a pas dit tout de suite que c'était Canaan, d'ailleurs, mais... Ah, je dis ça, je me dis, waouh, Abraham là, toi, t'es quelqu'un, hein. Alors il est parti. Il est parti, pourquoi il est parti? Parce qu'il a fait confiance en l'Éternel. Mais il ne le connaissait pas vraiment encore. Mais il l'a entendu. Et il a fait confiance en sa parole, en sa voix. Il a fait confiance à l'Éternel. Alléluia. C'est vraiment une affaire de confiance. Alors si Dieu te parle par sa parole, si ça a suffi à Abraham, laisse-moi te dire, ça te suffit aussi à toi. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Tous les jours. Tous les jours, par sa parole, et nous apporte ses promesses et ses commandements. Nous, on a l'église, on a nos frères, on a plein de choses. Et Abraham, il n'avait rien de tout ça. Il n'avait pas d'église, il n'avait pas de Bible. Il n'avait que la voix de Dieu. Et peut-être une tradition venant de Noé. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Et c'est pour ça qu'il est le père de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a appris, Abraham? C'est important de voir, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'il a appris, Abraham. Premièrement, il a appris, ou il apprend, à avoir confiance en Dieu. Et oui, Abraham a appris ça. Et si Abraham, le père de la foi, a appris, c'est que ça s'apprend. Et nous aussi, on a besoin. On est fait comme Abraham, vous savez, chair et les os. Abraham, il était comme nous. n'y a rien de plus. Et Abraham a appris à avoir confiance en Dieu. Nous aussi, c'est la même chose. On doit apprendre à avoir confiance en Dieu. Et Abraham a appris, le fait qu'il quittait son pays, ça veut dire qu'il a appris à ne faire confiance qu'en Dieu. Pourquoi le Seigneur envoie des missionnaires ? Pour les apprendre à ne faire confiance qu'en lui. Vous savez, ça change les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y aura toujours une différence entre un missionnaire, qui est un homme de Dieu, et quelqu'un qui n'est pas un missionnaire. Le missionnaire, lui, il n'a pas le choix. L'autre, il apprend aussi, mais différemment. Il faut dire aussi que le plan de Dieu est peut-être différent. Donc il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Mais simplement, c'est que si tu es missionnaire, c'est peut-être que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Alléluia. Donc si je suis ici, là, c'est que vraiment, peut-être, j'avais quelque chose que je n'avais pas compris. J'avais besoin de faire des choses. Merci parce que le Seigneur est en train vraiment de s'occuper de moi. À un point que je n'imaginais même pas. Et s'il peut le faire avec moi, il peut le faire avec vous. Il ne fait exception de personne. Il vous considère de la même manière. Quand vos yeux se tournent vers lui, lui, ses yeux, quand il vous regarde, il ne voit pas de différence. Son amour est total. Total, absolu. Pas de différence entre l'amour. Amen. Donc Abraham a appris à avoir confiance en Dieu. Première chose qu'il a apprise. Deuxième chose, il apprend à obéir à Dieu. Ah, c'est important. Apprendre à avoir confiance en Dieu, c'est une chose, mais Abraham a appris à obéir à Dieu. Mais il n'aurait pas pu obéir s'il n'avait pas eu confiance. Il faut d'abord avoir confiance pour être capable d'obéir librement, sans contrainte. Et parce que nous avons confiance en la parole de Dieu, que nous sommes capables de lui obéir. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous êtes capable de lui obéir? Oui. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu déclare, vous êtes capable de le faire. Capable de le faire. Alléluia. Troisièmement, oui, obéir à Dieu, il y a cette notion de agir. Quand on obéit à Dieu, on agit. Ça se passe dans une action. Il y a l'expression d'une volonté qui se conclut en action. Abraham est parti. Il a accepté, il a fait confiance, et il y a une action. Il est parti. Il a rassemblé son monde, et il est parti. Troisième chose qu'il a appris, il a appris à adorer le vrai Dieu. Et ça, je vous dis, c'est pas une mince affaire. Ça, c'est important. Il a appris à adorer le vrai Dieu. Vous savez, à Ur, tout le monde adorait n'importe quoi. Mais Abraham n'avait aucune notion de comment adorer le vrai Dieu. Il a fallu qu'il le découvre. Il a fallu qu'il s'essaye. Moi, je rigole beaucoup quand je pense à ça. Parce que il a adoré le vrai Dieu avec sa famille et ses serviteurs. Mais vous imaginez, Abraham, peut-être qu'il avait des notions de musique, je ne pense pas. Mais c'est peut-être un ténor, hein, mais il a commencé sans doute à adorer le Seigneur avec sa voix. Et c'était probablement pas un érudit de la musique ou quelqu'un qui avait. Mais il a adoré avec sa propre voix. Il a dû balbutier des choses qu'il savait pas trop, mais il a pas eu honte d'élever sa voix. Et pas n'importe où. En public. Il a d'abord monté le temple, puis il a adoré le Seigneur, Dieu, Elohim. Il l'a adoré avec sa famille. Il a dû chanter, probablement qu'il a dû chanter. Il a dû faire des louanges. Il a dû louer le Seigneur avec des chants. Et sa famille a suivi, encouragé. Et vous imaginez, moi, je vois ça, je vois la situation devant tout le monde, là, puis il monte son temple. Je le regarde, oh, tiens, il fait là. Puis il se met là à chanter, avec sa voix, cette gutturale, je ne sais pas. Pas besoin d'être un bon chanteur pour louer le Seigneur. Oh, excuse-moi, Fanny, je veux dire que c'est super d'être spécialiste. Non, c'est bon d'avoir des louanges avec des professionnels. Mais Abraham, il n'avait pas le choix. Et c'est pas parce qu'il n'était pas professionnel qu'il n'a pas loué le Seigneur. Il a appris à louer le Seigneur. Comment ? En l'adorant, par sa voix, par ses chants, par ses cantiques, qu'il a inventé. Il s'est mis devant le Seigneur et puis il s'est essayé. C'est ça qu'il faut faire. Vous savez, le chrétien, là, il ne faut pas qu'il se cache quand il loue le Seigneur. Moi, ça m'arrive, là, des fois, en pleine journée, devant du monde, là, puis je commence à fredonner des choses. Là, et c'est bon, parce que ça vous enlève toute notion de honte, de crainte. Hey, j'adore le vrai Dieu. J'adore pas n'importe quoi. J'adore le vrai Dieu. Le seul Dieu. Le vrai Dieu. Vous êtes en train de me juger alors que je suis en train d'adorer le vrai Dieu? Faudrait mieux de vous cacher, là. C'est quoi cette histoire? C'est Dieu, le créateur de toutes choses. Si vous ne l'adorez pas, c'est votre problème. Moi, je l'adore n'importe où, là où je suis. Et ce qu'a fait Abraham, il a appris à adorer le Seigneur. Ça, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. Vous savez, des fois, je me dis, mais c'est extraordinaire que je vois l'effort que fait que font les chantres pendant les louanges pour tirer le peuple de Dieu dans sa présence. C'est dur, on les voit. Alors qu'on devrait aller au Seigneur, précédé par les louanges. Mais volontiers, pleinement, et une joie de louer le Seigneur. On ne doit pas commencer à louer le Seigneur, et puis ça va venir, ça va venir. Non. Le ça va venir, c'est 2 heures avant, pendant votre... Peut-être que je suis un petit peu radical, là. J'ai mes principes. Okay. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pas prévu de dire ça, mais... C'est très important, les louanges. Méprisez pas les louanges. Négligez pas les louanges. Et quand les gens vous méprisent parce que vous louez le Seigneur, vous avez la sagesse de Dieu pour répondre. Alléluia. Mais ne vous faites pas arrêter parce que vous louez le Seigneur. Et ne vous cachez pas parce que vous louez le Seigneur. Faites-le comme Abraham. Ouvertement. Et aujourd'hui, vous savez quoi? On n'a même plus besoin de faire des autels de pierre. C'est Dieu qui a fait son autel sur nous. Autel de chair. En plus, vous n'avez plus besoin de chercher des pierres. Bon. Alléluia. C'est sûr que c'est Dieu qui a inspiré Abraham. Il a appris à adorer le vrai Dieu tout seul, devant le Seigneur, comme un enfant. C'est pour ça que j'admire Abraham. Dieu a vu au fond de son cœur. Dieu a vu au fond de son cœur. Ah, c'est trop bon. Un autre exemple, et puis on va s'arrêter avec Daniel. Vous savez le Daniel, celui du roi Nebuchadnezzar. Ok ? Daniel et la fournaise, vous connaissez ? Daniel et ses 3 amis, vous connaissez les noms ? Shadrach, Meshach et Abednego. Et aussi, là, ça a été pour moi, comment dire, une source de... C'est magnifique, ce qu'ils ont fait. À quel point ils ont préparé, et c'est ça qui est important, c'est ça la notion, la leçon qu'il faut prendre de ces 3 choses, de ces 3 personnes avec Daniel, c'est qu'ils ont préparé. Vous savez, leur décision de suivre le Seigneur, ils ne l'ont pas prise devant la fournaise. C'était parce que devant la fournaise, ils n'auraient pas tenu. La pression aurait été trop forte. Vous comprenez ce que je veux dire? Si par avant, vous n'aviez pas décidé, quoi qu'il arrive, je décide de faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive, je décide de faire confiance au Seigneur, le jour où la fournaise se présente, j'y suis dedans. Je ne brûle pas. Mais si vous n'avez pas pris cette décision, si au moment où la fournaise arrive, on vous dit « Suis le Seigneur ou va brûler ?» Je n'ai pas pris la décision de suivre le Seigneur. Je n'ai pas pris la décision de quoi qu'il arrive, je lui fais confiance. Là, la pression sera trop forte. Peut-être que vous y arriverez. Peut-être que non. Et quand je dis ça surtout aux ados. Vous savez, quand je parle de fournaise, des fois je parle de... Les ados, c'est important de se conserver pur avant le mariage. Si vous prenez cette décision avant, au moment où la fournaise va arriver, ben vous direz non. Moi, je me suis réservé pour ma femme. Mais si vous ne prenez pas cette décision avant, avec une bière ou deux, vous allez rentrer dans la fournaise sans même vous en rendre compte. C'est dommage. Je parle de la pureté sexuelle, mais je parle aussi de tas d'autres choses concernant les ados. C'est important de prendre sa décision avant, de faire confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur, il a de belles choses pour vous. De très belles choses. Amen. Alors Daniel, donc c'est Daniel 3, du verset 6 au verset 26. C'est sûr que on sait qu'on va avoir des troubles. Dans 2 Timothée 3, du verset 12 à 13, il est dit que le pieux sera persécuté. Qui est le pieux? C'est celui qui a gardé les commandements de Dieu. Ceux qui suivent le Seigneur, c'est celui qui suit le Seigneur. Le pieux sera persécuté. 2 Timothée 3, 12. En fait, que ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement de Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. C'est sûr. Mais c'est sûr aussi que pour aller au-delà, il va vous falloir la confiance de Dieu. Il va falloir que vous mettiez votre confiance en Dieu. Et là, vous êtes sûr de passer. La persécution, ça sera une anecdote pour vous. Et ça ne sera pas un problème. Parce que vous aurez mis votre confiance à Dieu. Ils vont vous persécuter, ça ne veut pas dire que vous, vous allez subir la persécution. Ça veut dire que eux, ils vont vous persécuter. Mais pour vous, ça ne sera rien. Parce que vous allez garder vos yeux braqués sur le Seigneur. Confiance au Seigneur. Alléluia. Soyez un chrétien plein temps. On en parlait tout à l'heure. C'est ça. On a besoin d'être chrétien plein temps. Alors c'est sûr qu'on sera persécuté, mais parce que la parole le dit. Mais par cette persécution, le fait comment vous allez vous en sortir, vous allez voir à quel point ce témoignage que vous allez donner, parce que vous allez dépasser cela, va pouvoir toucher les gens. Alléluia. Alléluia. Juste une dernière chose, et puis après on va passer au dernier chant. Peut-être Fanny, tu peux... Oui. S'il te plaît. Je vais vous dire que devant la fournaise, Dieu n'a pas enlevé le feu. Dieu aurait pu enlever le feu de la fournaise. Il dit, ok, je vais l'éteindre ce feu. Il y a Daniel, mais je l'enlève. Non, Dieu n'a pas enlevé le feu. Rappelez-vous bien. Dieu aurait pu empêcher Daniel d'aller dans le feu. Il aurait pu l'enlever. Disparu. Il aurait pu le protéger. Non. Dieu n'a pas enlevé Daniel. Il a été dans le feu. Mais Dieu l'a gardé du feu. Et ça, c'est important de comprendre. Dieu ne vous impose pas la fournaise. Mais Dieu va utiliser la fournaise pour vous purifier. Malachie 3, 2 et 3. Alléluia. Dieu est un Dieu juste et bon. Et si on met sa confiance en lui, vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez plus de doute. serez plus dans le trouble. Mais vous aurez une vie qui va donner envie. Vous allez avoir une vie qui fera envie. Une vie qui sera remarquable. Que les gens vont voir. Comment ? En gardant votre cœur pour le Seigneur. En mettant la confiance au Seigneur. Quoi qu'il puisse arriver. Et lorsqu'une chose arrive, waouh, c'est une bonne occasion pour voir le Seigneur agir. Faites le pas de foi. Faites confiance au Seigneur. Si vous avez une limite, demandez au Seigneur qu'il vous l'enlève, cette limite. Et avancez avec sa confiance, en ayant confiance en qui il est. Rappelez-vous qui il est. C'est le Créateur. Nous avons parlé de ce qui est possible d'avoir en tant que chrétien. Et peut-être que dans la salle, il y a encore des gens qui n'ont pas fait ce pas en disant, mais moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus parce que je ne le connais pas. Mais peut-être que ce message de la confiance en Dieu, ça a éveillé quelque chose en vous. Et si c'est le cas, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus en disant, Seigneur, Jésus, je te reconnais comme le Fils de Dieu, que tu es venu pour m'apprendre à avoir confiance en Dieu, que tu as pris mes péchés, que tu es mort, que tu es ressuscité, et qu'aujourd'hui, je veux te servir, je veux te donner ma vie, et que tu es mon sauveur. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, il y a un moment dans la vie où il faut le faire, où il faut prendre cette décision. C'est une décision de toute votre vie. Une décision qui va changer votre vie. Alors peut-être dans cette salle, tout le monde est déjà, a déjà donné sa vie à Dieu, à Jésus. Peut-être pas. Et c'est pour cela que tous les dimanches, c'est un choix, c'est une décision, c'est un plaisir aussi d'offrir le salut par Jésus. Alors si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, croyez-moi, c'est le moment. Ne tardez plus. Est-ce que quelqu'un a besoin de donner sa vie aujourd'hui? Si c'est le cas, alors n'ayez pas honte. Levez simplement les mains. Tout le monde l'a fait ici, un jour ou l'autre dans sa vie. Alléluia. Alors si c'est le cas, levez les mains. Levez votre main. On va prier pour vous. Si chacun de vous avait la conviction d'être sauvé, d'avoir le salut, alors peut-être que vous avez besoin de revoir votre confiance au Seigneur. Alors on va chanter un dernier chant, et c'est le moment pour vous, pendant ce temps de louange, peut-être de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai peut-être manqué quelque chose dans ma vie. Oui, je suis chrétien, mais j'ai besoin de ta vouer ma confiance en toi. J'ai besoin, Seigneur, de grandir dans la confiance. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est arrivé à un plan où c'est bon. Non. On a toujours besoin de faire cette prière. On a toujours besoin de grandir avec le Seigneur. On a toujours besoin de lui demander. Il nous garde le cœur. On a besoin d'avoir confiance en lui. Alléluia. Et même si l'épreuve est une façon de grandir, nous savons que l'épreuve ne vient pas de Dieu, mais que l'épreuve, Dieu l'utilise. Comme dans la fournaise. Vous à grandir. Alléluia. On va se lever et chanter un dernier chant.